Alors, aujourd'hui, nous allons continuer notre petite série de prédications que nous avons commencé dimanche dernier sur le thème du rapport du chrétien avec le monde. Alors, dimanche dernier, on s'est posé la question du rapport qui doit s'établir entre les croyants et ceux qui sont au pouvoir, l'État. Et on a mis en évidence, on a vu dans la Bible, dans un texte, que nos dirigeants ont pour lourde tâche, notamment, de travailler au maintien de la paix et de la liberté de choisir et de pratiquer une religion dans tous ses aspects. Le croyant, lui, de son côté, a une responsabilité avant tout de prière vis-à-vis de ses dirigeants, afin de pouvoir vivre en paix et de pouvoir librement annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Aujourd'hui, on va plus regarder ce qui nous concerne, nous, notre identité, notre citoyenneté, notre vie sur terre, dans notre pays et dans notre ville. Et pour ça, je vous invite à lire ensemble un texte dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, les versets 9 à 17. 1 Pierre 2, 9 à 17. Donc c'est l'apôtre Pierre qui nous parle dans cette lettre. « Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous, qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas aux désirs de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans les domaines même où ils vous calomnient en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Pour l'amour du Seigneur, soumettez-vous à vos semblables qui sont des créatures de Dieu, au roi qui détient le pouvoir suprême, comme à ses gouverneurs chargés de punir les malfaiteurs et d'approuver les gens honnêtes. Car voici ce que Dieu veut, c'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence toutes les calomnies portées contre vous par les insensés et les ignorants. Vous agirez ainsi en homme libre, sans faire pour autant de votre liberté un voile pour couvrir une mauvaise conduite, car vous êtes des serviteurs de Dieu. Témoignez à tout homme le respect auquel il a droit. Aimez vos frères en la foi. Révérez Dieu. Respectez le roi. » Et j'arrête ici notre lecture. Alors, ce texte commence par donner aux chrétiens une nouvelle identité. Notre texte nous dit « Vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsqu'on accepte le Christ comme Seigneur et Sauveur, il nous arrive plusieurs choses. Tout d'abord, nous sommes pardonnés de nos fautes. Nous sommes déclarés justes devant Dieu. Nous retrouvons une relation parfaite avec lui et nous recevons gratuitement la vie éternelle auprès de Dieu. C'est ce que veut dire notre texte lorsque nous lisons « Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. » Parce qu'avant la mort et la résurrection du Christ pour nous, et avant notre conversion, la grâce de Dieu, c'est-à-dire les dons, les cadeaux gratuits qu'il veut nous faire, nous ne pouvions pas les recevoir. Nous n'étions pas au bénéfice de ces cadeaux, de cette grâce. Nous ne les possédions pas. Mais après avoir accepté le Christ comme Sauveur et Seigneur, alors ces cadeaux deviennent les nôtres. Ces cadeaux, ces grâces de Dieu que sont le pardon, le salut, la vie éternelle, ils sont désormais pour nous. Ils sont à nous. Nous sommes dorénavant l'objet de la grâce de Dieu, les destinataires des cadeaux qu'il nous fait. Vous me direz, c'est déjà pas mal. Mais dans son amour pour nous, Dieu ne s'arrête pas là. Parce qu'en plus de tout ça, la Bible nous dit qu'il nous adopte comme ses enfants. Nous faisons dorénavant partie de sa famille, de son peuple. Nous devenons citoyens d'un peuple que Dieu a créé à la croix, le peuple de Dieu. Nous recevons en fait une nouvelle identité. Nous ne sommes plus seulement des êtres humains ou des citoyens français ou d'un autre pays, non. Notre identité change. Nous devenons des fils et des filles de Dieu, citoyens de son peuple. Cette citoyenneté nouvelle, pour nous, n'est pas comme celle que nous avons sur Terre, dans notre pays. Je suis, personnellement, citoyen français, mais uniquement pendant ma vie sur Terre, mais au sein de son peuple. Dieu nous promet une vie éternelle auprès de lui. Nous vivrons cette citoyenneté du peuple de Dieu jusque dans l'éternité, donc même après notre vie sur Terre. Alors là, on peut quand même se poser une question. Qu'est-ce qui me prouve que je suis bien citoyen du peuple de Dieu? Ceci est ma carte d'identité. C'est une carte qui est donc censée dire qui je suis. Elle est censée donner mon identité. Alors, voyons ce que cette carte me dit, et vous me direz si vous êtes d'accord ou pas avec ces informations. Nom, combat. Oui, ça va? D'accord. Prénom, là il y en a peut-être qui vont découvrir. Jean-François Alexandre. Et oui, tout le monde m'appelle Jeff, mais c'est qu'un diminutif en fait. Sexe masculin. Hugo, tu sors. né le 15 novembre 1984. Toujours d'accord ? Et ma femme dit oui, donc vous pouvez la croire. Nationalité française. Ça va toujours ? Eh bien, il n'y a rien sur une nationalité céleste. Rien sur une appartenance au peuple de Dieu. Pourtant, cette carte prouve bien que je suis citoyen français. Alors, qu'est-ce qui me prouve que je suis citoyen du peuple de Dieu ? Eh bien, c'est justement quelque chose qui ne se trouve pas sur un bout de papier, ou aussi un bout de plastique. C'est quelque chose qui se trouve en moi. C'est la foi que j'ai en Dieu, que j'ai en son Fils, Jésus-Christ. Et c'est l'Esprit de Dieu que Jésus a envoyé en moi, afin de me marquer jusque dans mon être, comme faisant partie de son peuple, afin de me changer, de faire de moi une personne nouvelle, avec une nouvelle identité. Dès ma conversion, Dieu me donne son esprit, qui fait de moi un membre à part entière du peuple de Dieu. Voilà ce que notre texte commence par nous rappeler, voilà ce qui doit être le centre de notre vie. En Jésus-Christ, nous obtenons une identité nouvelle, celle de fils et filles de Dieu, citoyens de son peuple. Mais alors maintenant que je suis citoyen du peuple de Dieu, qu'est-ce que je fais de ce bout de plastique ? Est-ce que je peux le jeter ? Ou est-ce que je suis toujours citoyen français, comme c'est marqué dessus ? Eh bien voici ce que nous dit notre texte au verset 11. « Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. » Vous êtes des résidents. Nous sommes toujours des résidents de ce monde, nous dit notre texte. Notre vie, notre citoyenneté terrestre continue d'exister. Je suis toujours citoyen français. Du coup, je ne vais pas jeter ma carte d'identité, je vais la garder. Mais ce qui change, c'est que je sais dorénavant que cette citoyenneté française terrestre est pour moi temporaire, comme le dit le texte. Elle ne va durer qu'un temps. Parce que l'identité que j'ai reçue jusque dans l'éternité, c'est celle de citoyen du peuple de Dieu, qui, elle, ne finira jamais. Pourtant, ça n'efface pas la réalité de mon identité sur terre. Non, elle s'y ajoute. On peut dire en fait qu'on a maintenant une double nationalité. Peut-être que certains parmi nous ont déjà une double nationalité sur Terre. Est-ce que certains d'entre vous ont une double nationalité sur Terre ? Est-ce qu'ils sont citoyens de deux pays différents ? Oui ? De quel pays ? Allemagne et France ? Espagne et France ? Angleterre et France ? Vous voyez, on peut être citoyen de plusieurs pays à la fois, même sur Terre. Eh bien, les chrétiens ont une double nationalité. Ils sont citoyens d'un pays, ou de plusieurs, sur Terre, de manière temporaire, mais également citoyens du peuple de Dieu pour l'éternité. À la conversion, on reçoit une nouvelle identité, une nouvelle citoyenneté, d'accord. On reste aussi citoyen d'un pays, dans notre monde, d'accord. Et quand on est citoyen d'un pays, on a des droits. Par exemple, en tant que citoyen français, j'ai le droit de voter, j'ai le droit d'habiter et de travailler dans ce pays. Ou en tant que citoyen du peuple de Dieu, j'ai droit au salut et à la vie éternelle. C'est ça nos droits. Mais quand on est citoyen d'un pays, on a aussi des devoirs. Alors, quels sont mes devoirs de citoyen terrestre et de citoyen du peuple de Dieu ? Eh bien, voici ce que nous dit notre texte. En tant que citoyen terrestre, il nous est demandé ceci : soumettez-vous à vos semblables, qui sont des créatures de Dieu, au roi qui détient le pouvoir suprême, comme à ses gouverneurs chargés de punir les malfaiteurs et d'approuver les gens honnêtes. Ça rejoint ce qu'on a vu dimanche dernier, les autorités ont le devoir de faire régner la paix et la justice, et on doit se soumettre à eux pour ça. Il nous est demandé également de témoigner à tout homme le respect auquel il a droit, et plus loin de respecter le roi. En tant que citoyen d'un pays, Dieu me demande donc de respecter les autorités, de respecter les lois, et de respecter également tout les hommes, tous, c'est-à-dire même ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ne partagent pas ma double nationalité, même ceux qui ne croient pas en Dieu, ou bien même ceux qui ont une religion différente de la mienne, tous les hommes. Il n'y a pas de restriction dans ce texte. Notre texte nous dit que tous les hommes sont des créatures de Dieu et que je dois donc témoigner à tout homme et toute femme, c'est un homme dans l'humanité en général, le respect auquel il a droit. Maintenant, voici ce qui m'est demandé en tant que citoyen du peuple de Dieu. Il nous est dit « Célébrez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé, puis plus loin, aimez vos frères dans la foi, et enfin, révérez Dieu. » Il y a quand même une différence avec les devoirs qu'on a en tant que citoyen terrestre. Avant, on nous demandait de respecter tous les hommes, mais ici, on nous demande d'aimer nos frères dans la foi. Donc, on doit quand même aller encore plus loin dans la relation avec les autres citoyens du peuple de Dieu. Avant, on nous demandait également de respecter les autorités, respecter le chef de notre pays terrestre. Mais ici, on nous demande de révérer, d'adorer, de célébrer le chef de notre citoyenneté céleste. Là également, on doit aller bien plus loin dans la relation que nous avons à notre chef. Tout ça pour marquer une fois encore que la citoyenneté terrestre est importante, elle est réelle, mais elle reste temporaire, donc moins importante que le rapport à Dieu et au reste de son peuple. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de chercher les devoirs qui seraient communs à nos deux citoyennetés, qui se rejoignent. Et là, notre texte nous dit, par exemple, « Pour l'amour du Seigneur, soumettez-vous à vos semblables » ou encore « Voici ce que Dieu veut, c'est que vous pratiquiez le bien. » Dans notre citoyenneté terrestre, mais aussi en tant que membre du peuple de Dieu, il nous est demandé de vivre en recherchant le bien, en pratiquant le bien, en œuvrant pour le bien. Parce que ce pays ou cette ville, ce sont les nôtres, même si de manière temporaire, et que la pratique du bien fait partie aussi de la volonté de Dieu pour nous. ça me fait penser à un autre texte. Un texte dans lequel Dieu s'adresse à son peuple qui vit pour un temps dans un pays étranger, un peu comme nous, résident temporaire quelque part. Et voici ce que Dieu demande à son peuple, qui est dans ce pays étranger pour quelque temps, voici ce qu'il demande, nous trouvons ce texte en Jérémie chapitre 29, les versets 4 à 7. C'est le Seigneur qui parle à son peuple. « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai fait déporter de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et installez-vous-y. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et ayez des enfants. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage et qu'elles aient des enfants. Multipliez-vous là-bas et ne laissez pas diminuer votre nombre. » Recherchez la prospérité de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur, car de sa prospérité dépend la vôtre. Dieu demande à son peuple de vivre une vie humaine pleine et entière, de construire des maisons, de travailler, de cultiver un jardin, de se marier, de marier leurs enfants, de se multiplier. Mais surtout, Dieu demande à son peuple, là où il se trouve, de prier en faveur de leur ville, de leur pays, et de rechercher, de travailler, de participer à la paix et à la prospérité de la société. C'est finalement la même chose que nous demandait notre texte dans 1 Pierre, avoir une bonne conduite, pratiquer le bien, respecter tous les hommes, prier pour les rois, travailler à la paix et à la prospérité de notre lieu de vie. On est quand même loin de certaines pratiques chrétiennes. En effet, peut-être par crainte d'un monde qui ne nous aime pas forcément, certaines églises, j'en connais, heureusement pas toutes, mais certaines églises vivent une sorte de repli sur elles-mêmes. Les membres de ces églises passent toute leur soirée et leur temps libre à se retrouver ensemble pour prier, pour étudier la Bible, pour vivre des moments fraternels. Ils marient leurs fils et leurs filles, mais uniquement entre membres du peuple de Dieu. Ils ne fréquentent presque exclusivement que d'autres membres du peuple de Dieu. Ils ne rêvent que de vivre dans ce peuple pour l'éternité. Ils ne se préoccupent que de leur salut, que de leur paix, que de leur relation à Dieu. Ces églises en oublient le monde dans lequel elles vivent. Ces chrétiens en oublient leur citoyenneté terrestre réelle. Ils en oublient le bien que nous sommes appelés à pratiquer dans le monde, le respect que nous devons montrer à tous les hommes, la paix sur terre à laquelle nous sommes appelés à travailler, la bonne nouvelle de Dieu que nous avons pour mission d'annoncer. Ne brûlons pas les étapes, ne tombons pas dans la facilité. Il ne faut pas que les difficultés, les craintes ou les déceptions de ce monde nous fassent nous replier sur nous-mêmes. Parce qu'au contraire, regardez ce que nous dit notre texte. Comment réduire au silence toutes les calomnies portées contre nous par les insensés et les ignorants? Le texte nous dit, c'est en pratiquant le bien aux yeux de tous. Comment faire pour que les gens croient en Dieu et le louent pour ce qu'il fait dans leur vie? Le texte nous dit, en leur montrant nos bonnes actions. Comment faire pour témoigner de la liberté que nous avons reçue en Christ? Notre texte nous dit que c'est en nous soumettant à ceux qui sont au pouvoir, en respectant tous les hommes et en travaillant à la paix du lieu où nous vivons. Si nous nous posons en ce moment la question du rapport que nous devons avoir avec ce monde, c'est justement parce que notre monde cherche cette réponse. Il cherche une réponse au conflit, à la violence, à la haine entre les hommes, et notamment entre les personnes de religions différentes. Et cette réponse, nous pouvons la leur montrer, la leur apporter, en témoignant de la bonne nouvelle de Dieu, en priant pour notre monde et nos dirigeants, en pratiquant le bien aux yeux de tous, en respectant tous les hommes et en participant à la paix sociale, la paix entre les hommes, le respect de chacun, la liberté de tous. À ce sujet, nous avons reçu une demande cette semaine, un appel. Cet appel qui nous a été lancé cette semaine vient du mouvement que vous connaissez, le mouvement Vivre Ensemble à Cannes, un mouvement de dialogue interreligieux dans notre ville. Ils nous ont dit aussi se poser cette question, vouloir montrer de manière forte le désir commun de tous les hommes de toutes les religions de Cannes de vivre dans la paix et le respect les uns des autres, malgré nos différences. Il n'est pas question dans l'appel que nous avons reçu cette semaine de faire comme si nous croyions en un même Dieu, parce que ça ne serait pas vrai. Il n'est pas question non plus de prétendre que nous nous pensons mutuellement sauvés ou dans la vérité, ça ne serait pas vrai non plus. Il n'est ici question uniquement que d'un appel commun à la paix et au respect de tous les hommes, tel que notre texte nous le demande. Alors, nous leur avons proposé quelque chose en réponse à cet appel. Nous avons sur Cannes la chance d'avoir une visibilité mondiale durant le festival du film, qui va débuter bientôt. Si nous voulons montrer de manière générale, globale, notre volonté commune de respecter tous les hommes et de vivre en paix, pourquoi ne pas en profiter ? Afficher tous de manière très symbolique sur nos lieux de culte respectifs une banderole identique qui signifierait clairement cette volonté-là sans aucune ambiguïté autre. Cette idée a plu et nous sommes tombés d'accord après discussion sur les mots qui pourraient figurer ou non sur ce message commun. Et voici ce qui en est sorti. Et je vais demander l'aide.
Les filles, je vais aller un peu plus haut, que les gens voient.
Voilà ce qui en est sorti. Non à la division entre les peuples, mais oui à la solidarité, parce que nous vivons tous une citoyenneté terrestre réelle. Non à la haine entre les hommes, mais oui à la fraternité, parce que nous sommes appelés à respecter tous les hommes. Non à la violence entre les hommes, mais oui à la paix. La paix à laquelle nous sommes, nous aussi, appelés à travailler. Voilà un message commun, clair, sans ambiguïté, sans mélange, sans syncrétisme, et en faveur du respect de tous les hommes et de la paix entre tous. Voilà un message qui peut être aussi le nôtre, en réponse à l'appel que nous avons lu ce matin dans notre texte, de respecter tous les hommes et de travailler à la paix là où nous nous trouvons. C'est pourquoi, avec les autres lieux de culte de Cannes, nous allons nous aussi afficher cette banderole sur la façade de notre lieu de culte durant 2 semaines, durant le festival, pour participer, si peu soit-il, à témoigner de notre respect pour tous et de notre désir de vivre en paix. Cette banderole est déjà affichée sur plusieurs lieux de culte de Cannes. J'ai reçu des photos, j'ai pas eu le temps de les mettre sur le PowerPoint. Moi, j'ai voulu attendre cette prédication ce dimanche pour vous la présenter et pour vous annoncer cette initiative qui a été décidée entre les responsables des différentes religions de Cannes. Mais ce message, sur cette banderole, aussi important soit-il, ce ne sont que des mots. C'est qu'une banderole qui restera là quelques jours. À nous, maintenant, dans nos vies personnelles et aussi communautaires, à travailler ensemble, dans le monde, dans notre ville, dans notre société, travailler à l'annonce de l'Évangile, à la prière pour le monde, en montrant notre respect pour tous les hommes, en pratiquant le bien et en participant, en travaillant à la paix, tout comme Dieu nous l'a ordonné. Amen.